It's Morning Edition from NPR News.
Let's see things on people house.
France Inter, le 18-20.
Avec l'invité d'un jour dans le monde, on va faire le tour de la planète en musique. Fini la radio ou la télévision. Désormais, la musique, les jeunes la découvrent via les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Et bonne nouvelle, tout ça élargit leurs oreilles avec l'émergence d'artistes comme les Nigérians CK ou Burna Boy. Ça crée aussi des phénomènes étranges quand certaines vieilleries musicales reviennent à la mode. Et bien sûr, des stratégies commerciales pour les labels qui s'emparent de ces nouveaux médias. Le bruit du monde ce soir est au Venezuela. On s'intéressera à la santé mentale des habitants durement essorés par la crise et la pandémie. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Legénie nous emmène à bord du premier TER de Dakar, à Mayence en Allemagne, qui croule sous les recettes fiscales grâce au Covid, et en Australie, où le gouvernement mise sur Pac-Man pour décourager l'immigration illégale. À 18h50, dans Pas son genre, Julia Foyce dresse le portrait de la première femme noire qui va devenir chef de la police de New York. 18h55, le monde d'après avec Cyril Sauvageau. En Pologne, le retrait de la loi sur les médias et l'arbre qui cache une forêt pas très reluisante. Il y en aura pour tous les goûts jusqu'à 19h. Bienvenue et bonsoir.
Corinne Audouin. Un jour dans le monde.
Notre invité ce soir est donc Sofian Fanen. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et cofondateur du média Les Jours, auteur d'une somme sur le sujet, une référence en tout cas, le boulevard du stream, paru aux éditions Castor Astral en 2017. Alors je le disais, désormais, la musique, les jeunes la découvrent via les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, c'est-à-dire d'écoute en ligne. Alors on peut parler de l'application chinoise TikTok, de son milliard d'utilisateurs actifs, avec son format de courte vidéo et qui est en train de devenir, pour les moins de 25 ans du monde entier, la première source de découverte musicale. Chaque réseau, YouTube, Instagram, les pages artistes de Facebook, les plateformes Spotify, Deezer, Apple Music dessinent une carte de plus en plus mondialisée de la musique qu'écoutent les jeunes d'aujourd'hui, avec des artistes qui peuvent surgir de toute la planète. Et c'est un exemple récent, le rappeur nigérian CK, des utilisateurs de TikTok, on les appelle les TikTokers, ont diffusé des courtes vidéos d'eux en train de danser sur un extrait de Love Nwantiti. Résultat, un carton planétaire sur YouTube, sur Spotify. CK compte 29 millions d'auditeurs mensuels contre moins de 200 000 il y a un an. Et il y a beaucoup d'exemples comme celui-là, Sofian Fanen. C'est vraiment l'idée d'un morceau en Igbo qui devient hit international. Ça paraissait incroyable, mais maintenant tout est possible.
Maintenant tout est possible, ouais. C'est assez fascinant en fait à regarder. Hein. C'est vrai que ce morceau de CK, il est sorti en 2019. Il a mis 2 ans en fait pour remonter, émerger, être trouvé, trouver sa forme avec TikTok et devenir un carton international. Il a quand même été numéro 1 en France, en passant par des chemins vraiment vraiment détournés. Et on voit comme ça arriver aux oreilles mais vraiment aux oreilles du grand public, du très grand public, sur les grosses radios françaises, etc. Des morceaux qui auparavant, je dirais, auraient dû passer par l'ensemble des filtres de maisons de disques internationales, qui peut-être d'ailleurs ne serait jamais tombé dessus, ou alors cet artiste CK serait resté connu dans son pays et n'aurait pas réussi à atteindre une audience internationale. Mais aujourd'hui, avec les outils des réseaux sociaux, de YouTube, de TikTok, vous en avez parlé, et des plateformes de streaming qui rassemblent tous les auditeurs et les auditrices à la fin de ce parcours, on a comme ça des titres très surprenants et assez intéressants d'ailleurs, parce que musicalement on est dans une proposition très très personnelle qui trouve leur chemin par les oreilles notamment des plus jeunes, effectivement.
Justement, pour qu'on explique peut-être à nos auditeurs pas forcément familiers de ces nouvelles façons d'écouter la musique, on parle de musique dématérialisée, mais ça fait un moment quand même que c'est le cas. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce qui se passe en ce moment sur l'écoute de la musique dans le monde?
Alors, il y a plusieurs choses de nouveau. Déjà, je le disais, les grandes plateformes de streaming rassemblent désormais vraiment les auditeurs du monde entier dans quelques marques comme ça, Spotify, Apple, YouTube.
On est tous abonnés aux mêmes en quelque sorte, c'est ça. Il y a vraiment quelques acteurs.
Alors que Alors que dans les années 2000, typiquement, où la musique était déjà dématérialisée, chacun avait ses MP3 de son côté, on se les échangeait, etc. Mais on n'avait pas des grandes plateformes qui rassemblaient et qui fabriquent, en fait, des gros tubes internationaux, des grands succès. Et on a eu aussi, effectivement, l'émergence de TikTok. C'est vraiment une vraie révolution. C'est-à-dire que YouTube était déjà vraiment un pourvoyeur de viralité dans la musique. Facebook a pas réussi à prendre cette place pour plein de raisons. Et TikTok est vraiment arrivé. TikTok, c'est une application qui est faite pour la musique, qui a été fabriquée pour la musique, notamment à partir d'une application américaine qui s'appelait Musical.ly, qui était en gros une plateforme de où on mimait les paroles de nos chansons préférées. Et TikTok s'est ensuite fabriqué à partir de là comme un réseau social de la viralité à partir de la partie la plus virale des chansons. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre 15 secondes, 10 secondes d'un morceau. Alors peut-être c'est en plein milieu d'un morceau complètement inconnu et on va prendre juste le petit gimmick, ce petit ver d'oreille en fait qui nous rentre tout de suite dans le cerveau et qui permet de fabriquer alors une chorégraphie, une vidéo rigolote, on va filmer son chat, puis on va mettre cette musique là. Et quelqu'un d'autre va dire ah mais ce bout de morceau il est génial, je vais reprendre ce bout de morceau et faire ma propre vidéo. Et sur TikTok la différence c'est qu'on mesure le succès non pas au nombre de clics ou de vues, mais au nombre de vidéos qui reprennent le segment musical déjà utilisé par une autre vidéo.
C'est ça, donc c'est vraiment, ça c'est intéressant de l'expliquer aux gens qui ne voient pas ce qu'est TikTok, c'est des très courtes vidéos où finalement il n'y a pas de son, le son c'est cette musique qu'on reprend, qu'on duplique, parfois c'est des sketchs, ça peut être d'autres choses, mais là ce soir on parle de musique, et les jeunes, parce que c'est beaucoup des jeunes, se filment en train de faire des petites chorégraphies, mais ça dure 20-30 secondes, c'est très très bref, et c'est complètement viral, quelqu'un commence, quelqu'un reprend, ajoute, voilà, il y a presque une création partagée dans cette appli qui est plus que juste, je vais reposter quelque chose qui me plaît. Chacun ajoute son petit grain de sel.
Chacun ajoute son grain de sel, c'est vraiment ça qui est intéressant. On a vraiment comme ça une sorte de création en chaîne qui se crée. Alors il y a beaucoup d'imitations, évidemment, mais au milieu de cette imitation, il y a une idée qui surgit. Et d'ailleurs, pour faire surgir cette idée, l'un des trucs aussi, c'est d'avoir une musique un petit peu différente, un peu bizarre, un peu intrigante, un peu nouvelle, un peu voilà. Et c'est pour ça qu'on a des jeunes, des TikTokers, qui vont aller rechercher des titres un peu abandonnés, oubliés, ou alors que eux adorent, mais qui sont pas encore connus au niveau mondial.
Justement, est-ce que ça change un petit peu cette mondialisation comme ça de l'écoute de la musique pour faire vite la domination de l'axe Europe-États-Unis? Voilà, j'imagine dans les années 60, on écoutait ce qui venait d'Angleterre ou des États-Unis. Les années 80, 90, peut-être que ça s'ouvrait un petit peu. On écoutait les musiques des diasporas, mais il n'y avait pas cette ouverture mondiale incroyable qu'on a aujourd'hui.
Oui, ça c'est vraiment une révolution qui est en cours. Hein. C'est-à-dire que auparavant, on avait effectivement des musiques qui pouvaient venir du monde entier, mais soit elles arrivaient par les communautés, les diasporas, soit elles arrivaient par le filtre des musiques du monde, qui étaient en gros des musiques du Sud vendues au public du Nord, avec voilà un peu pour le meilleur, pour le pire. Là, on a vraiment des musiques qui arrivent du Nigeria, d'Afrique du Sud, de Corée du Sud, du Brésil, de partout. J'ai envie de dire, il y a pas d'intérêt. Et qui nous arrivent directement, vraiment un peu, elles sont naturelles quoi, elles arrivent et elles ont un succès international. Vous avez parlé de Burna Boy par exemple, qui est vraiment un musicien nigérian qui a un succès international gigantesque et ça c'est vraiment une grande nouveauté, et ça c'est permis par les réseaux sociaux et par les plateformes de streaming, parce que tout d'un coup n'importe quel pays est intéressant économiquement, alors que dans les années 80, 90, voire même 2000, il y a plein de pays qui n'étaient pas intéressants économiquement parce que il n'y avait pas de musique à leur vendre et il n'y avait pas d'argent à faire dans ces pays pauvres où il n'y avait pas d'économie de la musique structurée. Aujourd'hui, le streaming et tout ce nouveau monde de la musique est en train de restructurer une économie de la musique, voire même de structurer tout court dans des pays qui n'en avaient pas eu, ou alors elle était très fébrile. Et aujourd'hui, on a comme ça des labels qui se montent, des sociétés de gestion des droits qui se montent également à travers le monde, dans tous les pays, et qui vont comme ça permettre à des artistes et à des maisons de disques d'exister et d'être suffisamment solides pour faire leur boulot eux-mêmes dans leur coin et aller nous amener des nouvelles musiques et de nouvelles chansons sans avoir besoin de passer forcément par le filtre des gros grosses maisons disques internationales.
Alors vous nous parliez justement de Burna Boy, on va l'écouter pour que les auditeurs se mettent dans l'oreille. Burna Boy et Wizkid, ça s'appelle Bédor, ça parle de Ballon d'Or. Burna Boy, c'est vraiment une supra méga star. C'est incroyable, bien au-delà du Nigeria. Hein, il est nigérian.
Oui, Burna Boy, là, lui, il est vraiment complètement sorti de son pays. C'est une star internationale. C'est du niveau, de The Weeknd, etc. C'est vraiment un.
Et il plaît à tout le monde. Il plaît à tout le monde partout. C'est ça qui est intéressant aussi. Il n'y a plus tellement de spécificités continentales, j'en viens de dire, locales, nationales ou quand même un petit peu.
Alors, ça marche fortement autour du Nigeria, mais ça marche aussi fortement en Europe, ça marche aussi fortement en Amérique du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche pas du tout uniquement dans la communauté nigériane, etc. Non, c'est de la pop internationale et tout le monde l'écoute comme on écouterait un artiste qui arrive des États-Unis ou d'Angleterre.
On va changer de continent, on va faire un petit détour par l'Asie du Sud-Est. Alors c'est très particulier là-bas parce que il y a une façon, évidemment pas la seule, mais de là-bas peut-être d'utiliser ces nouveaux outils, les réseaux sociaux, les plateformes, pour en faire vraiment un outil de marketing. On pense évidemment au groupe de K-pop, au groupe de musique coréenne, sud-coréenne bien sûr.
Oui. Allô?
Oui, je vous ai perdu.
Oui,
oui, je disais, en Asie du Sud-Est, c'était un petit peu différent. On voit qu'il y a une utilisation de marketing qui est faite par certains labels de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces réseaux qui permettent de toucher finalement un public incroyablement large par les réseaux sociaux, par les plateformes.
Oui, notamment autour du groupe BTS, effectivement. En fait, il y avait toute cette musique sud-coréenne qu'on appelle donc la K-pop, qui a essaimé au Japon, Thaïlande, Chine. Il y a des variations un peu, mais c'est le même système. C'est-à-dire qu'on va créer une multitude de groupes avec des castings, etc. Des gens qui chantent bien, qui dansent bien, qui rappent et qui présentent bien également. Et cette musique qui était très régionale, on va dire, depuis une dizaine d'années, mais c'est en train de s'accélérer extrêmement fortement, encore une fois, grâce aux mêmes outils, plateformes de streaming, réseaux sociaux, genre TikTok, c'est en train de devenir des stratégies internationales. Et BTS, c'est vraiment l'exemple. On a vraiment eu un groupe qui est sorti de sa région et qui est aujourd'hui un énorme groupe international et qui utilise TikTok et l'ensemble des réseaux sociaux, mais TikTok avant tout, pour créer ce qu'on appelle des challenges, c'est-à-dire qu'on va créer des sortes de défis avec des danses, des mouvements de danse, des nouveaux morceaux. Et il faut se filmer dans sa chambre en train de danser la chorégraphie du nouveau morceau de BTS pour faire partie de la communauté. Ils ont un usage extrêmement performant, extrêmement novateur de ces outils en permanente évolution.
Voilà, on a gagné quelques auditeurs ados. Merci beaucoup, Sophie Anfanen. BTS, donc ça c'est quand même incroyable. On voit des jeunes, on en connaît, des adolescents qui se mettent à apprendre le coréen par exemple. On voit qu'il y a une ouverture d'esprit aussi qui peut arriver grâce à la musique. Et puis une dernière chose dont je voulais parler avec vous, c'est aussi les tubes complètement improbables qui peuvent émerger, puisque dans les réseaux finalement, dans les réseaux sociaux, dans les plateformes, tout est mis à égalité. Hein. Une chanson d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, même des années 30, ça peut devenir à la mode en 2021. Tout, c'est pas que tout se vaut, mais il y a plus vraiment d'hierarchie et d'histoire peut-être.
Oui, c'est vrai que quand on est jeune et qu'on n'a connu que le streaming, on a accès à des montagnes de musique gigantesques en trois clics et un titre de 1978 est accessible en même nombre de clics que la musique d'aujourd'hui. Mais les plateformes de streaming sont une quête de la nouveauté permanente. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors par des stratégies de maison de disques, mais aussi parce que les parents font écouter la musique, mais aussi parce que la nouvelle génération est quand même très curieuse et elle va aller sauter de morceau en morceau. On va avoir des jeunes personnes sur TikTok qui vont sortir un morceau, alors qu'il peut avoir quelques années. On l'a vu avec Justin Wellington l'été dernier, qui est devenu un tube alors que le morceau a 4 ans désormais. Ou alors ils vont aller sortir de plus vieux morceaux. On l'a vu notamment avec un morceau de Fleetwood Mac qui est devenu un succès sur TikTok et un succès tout court de la musique, alors que tout le monde, en tout cas les plus jeunes, avaient oublié, si ce n'est n'avait jamais connu Fleetwood Fleetwood Mac. Et grâce à une vidéo sur TikTok, c'est devenu de nouveau un succès. Et d'ailleurs, les disques de Fleetwood Mac se revendent en vinyle aux jeunes personnes qui vont aller s'acheter un vinyle de Fleetwood Mac pour écouter chez eux. Donc on a une sorte de boucle un peu nostalgico-moderne qui se crée, et les maisons de disques essayent de s'insérer là-dedans pour aller essayer de pousser les artistes en allant par exemple payer des influenceurs sur TikTok pour diffuser des morceaux. On a vu par exemple Charlie D'Amelio, qui est une grande star de TikTok, faire un partenariat avec Sony, le label de Michael Jackson, pour
relancer de morceaux
de Michael Jackson, pour essayer de relancer Michael Jackson, parce qu'il y a eu un documentaire il y a pas très longtemps sur Michael Jackson qui a beaucoup fait diminuer les écoutes de cet artiste. Et donc elle chantait, elle dansait sur des morceaux de Michael Jackson, et c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. C'est des stratégies de maison de disques assez courantes aujourd'hui.
Et c'est ça qui est amusant, Sofiane Fanen, c'est que vous parlez de stratégie, puis il y a des choses qui apparaissent, on ne sait pas pourquoi, et vous en parliez, il faudrait quand même qu'on l'écoute, parce que c'est un chanteur de Papouasie, Nouvelle-Guinée, qui s'appelle Justin Wellington, et en chantant cette vieillerie que vous allez entendre, c'était le tube de l'été dernier. Start my truck, let's all jump in, here we go together. Nice cool breeze and big palm trees, I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I need. Checking my feet out, I need. Voilà, Aiko Aiko, on n'a pas le temps de raconter l'histoire de ce morceau venu de sans doute des esclaves africains passés par la Nouvelle-Orléans pour arriver dans un chanté par un chanteur de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On est bien dans la mondialisation de la musique. Sofiane Fanen, merci beaucoup, c'était passionnant. Je rappelle le titre de votre livre, Boulevard du Stream, au Castor Astral.
Le 18-20, Corinne Audouin, sur France Inter.
Et la suite ce soir, c'est le bruit du monde. Ça se passe au Venezuela. Il y a la crise, la récession qui touche durement le pays depuis 8 ans maintenant. La pandémie par-dessus, et sans surprise, le moral des Vénézuéliens ne va pas très fort. Entre répression politique et dépression, on va les écouter. Et pour aller jusqu'à 19h, ils sont là autour de la table et dûment masqués sous les radars avec le retour de Sébastien Logeni.
Le Sénégal inaugurait hier en grande pompe le premier TER à Dakar.
Pas son genre avec Julia Foïs. Bonsoir.
Bonsoir. Une publicité sud-coréenne avec ce qu'il faut de sexisme et de femmes transformées en vaches.
Oui. On adore. Le monde d'après avec Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir. Nous irons en Pologne où le pouvoir populiste a voulu museler encore un peu plus les médias, mais il s'est cassé les dents. Sa loi est retoquée par le président polonais. C'est un signal positif pour l'opposition.
Et on se retrouve à créer, après une petite escale musicale anglaise, Métronomie, en collaboration avec la chanteuse Spill Tab. Ça s'appelle Uneasy.
Pull me down, don't need to take no rest.
Le bruit du monde ce soir est au Venezuela. Le pays est en crise depuis plusieurs années maintenant. Hyperinflation, sanctions américaines, pénurie, services basiques déficients. La vie au quotidien est toujours plus difficile, sans oublier la pandémie de Covid-19. Alors forcément, le moral des habitants s'en ressent. Le pays a été le plus riche du continent. Aujourd'hui, 94% des Vénézuéliens vivent sous le seuil de pauvreté. Entre 5 et 6 millions d'entre eux ont fui le pays. Et ceux qui sont restés ont du mal à voir le bout du tunnel. C'est un reportage d'Alice Campagnol.
Malgré les apparences, ici, on en a gros sur le cœur. Ils sont une quinzaine réunis un dimanche pour former un cercle de parole destiné aux journalistes. C'est un métier difficile au Venezuela, comme l'explique Gira Jojot.
Nous les journalistes, peu importe ce que l'on fait, on est en danger. Publier un tweet, y mentionner un haut fonctionnaire, exprimer une position face à une actualité politique, économique ou sociale. Aller couvrir une manifestation peut avoir de graves conséquences, comme une détention arbitraire, et on peut même se retrouver poursuivi pour trahison.
Et en plus des problèmes liés à la liberté d'expression, s'ajoutent les difficultés du quotidien.
Nous avons le pire service Internet de tout le continent et ça nous provoque beaucoup de stress. Parce que d'un côté, il faut que l'on soit en permanence connecté, mais quand il y a une coupure d'électricité ou que soudain Internet ne fonctionne plus, on fait quoi? Donc on travaille encore plus et on s'y met à minuit parce que c'est l'heure où Internet marche bien car les voisins dorment. Au Venezuela aujourd'hui, nous les journalistes, nous devons cumuler 3 ou 4 emplois pour vivre à moitié comme on dit, et quand je dis vivre à moitié, je parle de couvrir nos besoins de base, et je ne parle pas de vêtements ou de chaussures, mais de nous alimenter et d'avoir du matériel de travail à jour.
La psychologue qui dirige cet atelier de soutien émotionnel, Yorelis Acosta, étudie le mal-être de ses concitoyens depuis maintenant plusieurs années.
Ce que je dis à mes patients, c'est que la santé mentale, c'est la tranquillité. Qui peut dire aujourd'hui au Venezuela qu'il est tranquille? Tu vas te coucher sereine ou remplie de préoccupations? Quand tu te réveilles, tu es tranquille ou au contraire, tu te dis « Ouf, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura du transport public aujourd'hui? Est-ce que je vais pouvoir m'acheter à manger ?» Les gens me racontent qu'ils rêvent la nuit, qu'ils font la queue pour acheter des médicaments. Mais vous imaginez? En rêve, on peut aller à Paris. Et quelque chose qui m'a marqué dernièrement, ce sont les plus jeunes. Le suicide, les idées suicidaires et la dépression sont très présents chez les jeunes générations. C'est très net. En consultation, les gens me disent « Oui, je veux mourir, j'ai tout planifié, j'ai déjà écrit une lettre d'adieu. »
Le suicide comme indicateur de la dépression vénézuélienne. Alors il faut aller à Mérida, dans l'est du pays, pour en parler, car c'est là-bas que le taux de suicide est le plus élevé au Venezuela. Le viaduc Campo Elias a longtemps été le lieu où les habitants de cette ville universitaire se donnaient la mort avant que des barrières ne soient installées. Et à quelques kilomètres de là, chez un chercheur de l'Observatoire vénézuélien de la violence, qui préfère ne pas donner son nom, on évoque une hypothèse qui expliquerait pourquoi les mérideños vont mal.
Depuis 2015, la réalité du pays a beaucoup changé. Pour ce qui touche à la ville de Mérida et ses alentours, l'université n'a plus l'importance qu'elle a toujours eue. La faculté, en effet, n'a pas échappé à l'urgence humanitaire que nous vivons. La désertion des étudiants, des personnels administratifs et des professeurs est très importante. On n'a pas de chiffre exact, mais je vais vous donner un exemple. En géographie, là où moi je donne des cours, j'avais en moyenne 50 à 60 étudiants chaque année. Puis en quelques temps, déjà avant la pandémie, peu à peu, je n'ai eu plus que 14 étudiants, puis 9, puis 7. Et aujourd'hui, en temps de pandémie, je n'ai plus qu'un seul élève. Et c'est loin d'être seulement ma matière, hein. C'est la même chose partout. Ceux qui restent dans le pays, pour survivre, ils doivent aller travailler, ils ne vont pas étudier. Et ils ne voient plus dans l'université cette opportunité de devenir quelqu'un, comme on disait.
Aujourd'hui, tous les campus du pays sont désertés, complètement abandonnés. Entre 5 et 6 millions de personnes ont quitté le Venezuela depuis 2015. Donc en plus de la difficulté à vivre dans le pays, ils sont très nombreux à porter en eux l'absence d'un parent ou d'un ami.
La santé mentale au Venezuela, c'était un reportage d'Alice Campagnol pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup Alice. Le bruit du monde, la suite avec l'actualité internationale passée sous les radars et dénichée par Sébastien Logeni. On a tous reconnu la musique du célèbre jeu vidéo Pac-Man, un jeu qu'on retrouve dans la nouvelle campagne de communication australienne pour dissuader les demandeurs d'asile.
Ouais, l'Australie qui est connue pour sa politique migratoire très dure, Corinne, pas un bateau de migrants n'y accoste depuis quelques années, au risque d'enfreindre les lois internationales sur l'asile. On appelle ça la stratégie zéro chance.
I'm Karen Andrews, Australia's Minister.
On entend là Karen Andrews, la ministre australienne des Affaires étrangères. Celui, dit-elle, qui arrive illégalement par bateau en Australie ne pourra jamais s'installer ici. Ne tentez aucun voyage illégal vers l'Australie par bateau. Vous avez zéro chance de succès. Voilà, le ton est donné. Eh bien, Canberra monte encore d'un cran dans cette stratégie draconienne avec un nouveau site internet développé par le ministère australien des Affaires étrangères. Le site Zéro Chance, avec notamment donc des jeux vidéo d'un goût pour le moins douteux. Une version détournée de Pac-Man, sans la musique heureusement, où le petit personnage est remplacé par un bateau cherchant à atteindre l'Australie. Il se retrouve confronté à des orages ou à la police des frontières. On y retrouve aussi une roue de la fortune qu'il faut tourner pour atteindre Sydney. La même chose à chaque fois. À chaque tour de roue, on tombe sur la police ou des passeurs qui vous prennent votre argent. Impossible de gagner. On perd à tous les coups. Les ONG de défense des migrants australiens dénoncent un procédé épouvantable, macabre, et rappellent que le droit de demander l'asile reste un droit fondamental et même en Australie.
C'est hallucinant, merci. La ville de Mayence, en Allemagne, vient de recevoir un cadeau de Noël inattendu.
C'est un effet secondaire inespéré de la crise sanitaire. La ville de Mayence, connue pour avoir enfanté Gutenberg et son imprimerie, va devenir riche, ou en tout cas beaucoup moins endettée, mais cette fois grâce au vaccin anti-Covid développé par l'une des pépites installées sur son territoire. J'ai nommé le désormais célèbre laboratoire de BioNTech.
2020.
Petit film de promotion de BioNTech qui s'est associé, on le sait, avec Pfizer pour produire en moins d'un an le vaccin le plus utilisé au monde. L'entreprise allemande a fait plus de 10 milliards d'euros de bénéfices sur lesquels elle paye plus de 3 milliards d'impôts. Une vraie poule aux œufs d'or, et c'est donc une bonne partie de cette manne financière, 1 milliard d'euros environ, qui est arrivée dans les caisses de la ville de Mayence cet hiver. Mayence qui ne compte pas dépenser à tort et à travers ce trésor inattendu. En bon gestionnaire, le maire va d'abord désendetter la ville sous l'eau depuis 30 ans. Il va investir pour faire de Mayence un pôle de recherche biotechnologique en baissant les taxes sur les entreprises. Une stratégie qui fait quand même des jaloux. Les villes voisines y voient déjà de la concurrence déloyale et réclament un peu plus de solidarité des 200 000 Mayençais.
Et on termine en Afrique de l'Ouest, Sébastien, avec le premier TER de la région.
Le premier train express régional, en effet, inauguré hier en grande pompe à Dakar par le président sénégalais Macky Sall. En personne.
Ce 27 décembre 2021 marque une étape historique. Une aube nouvelle se lève sur notre cher pays.
Voilà. Cela fait des années que le Sénégal attend ça, un train entre la banlieue de Dakar et le centre de la capitale sénégalaise pour désengorger cette mégalopole de 3 millions d'habitants saturée par les embouteillages. 35 minutes seulement de voyage en train au lieu de 2 heures ou plus en voiture. Un billet entre 70 centimes et 4 euros selon la classe. À terme, 115 000 passagers par jour avec des TER toutes les 10 minutes. Un projet où la France est très présente. L'exploitation des voies, des rames construites par EFH, Alstom sera d'abord confié à une filiale de la SNCF. Dans un deuxième temps, le train devrait permettre de rejoindre l'aéroport de Dakar, un progrès qui n'est pas toutefois sans effets collatéraux sur les populations. Des milliers de personnes vivant pour la plupart en bidonville ont été évacuées pendant les travaux et attendent toujours d'être relogées.
Merci Sébastien Logeni, ça donnerait un très beau reportage d'une bruit du monde dans le TER à Dakar.
Ah oui, on a envie de le prendre ce train.
Tout à fait, on vous retrouve demain. Allez, on va chalouper quelques minutes avec la Calypso Queen, Calypso Rose, dans la playlist de France Inter.
Making blood to take down me now. Small island girl, now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso, Rose Queen of Calypso.
Allez, j'espère que vous avez bien chaloupé Calypso Queen par la grande Calypso Rose. Notre Queen, à nous, c'est Julia Foyce, bien sûr.
France Inter. Un jour dans le monde.
Passons genre, comme tous les mardis, Julia, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète aux couleurs LGBT. Et d'abord, ce nouveau coup de vis en Afghanistan.
Semaine après semaine depuis le retour des talibans au pouvoir, l'étau ne cesse de se resserrer autour des Afghanes. Dernière mesure en date, les femmes ne pourront voyager seules au-delà de 72 km. Elles devront être accompagnées par un membre de leur famille, un homme. Bien entendu, précise le ministère de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice. En reprenant les clés du pays en août dernier, les talibans avaient voulu donner des gages à la communauté internationale. Non, l'histoire ne se répétera pas. Oui, les droits des femmes, cette fois, seront respectés. Sauf qu'avec la restriction de leur accès à l'éducation, leur disparition de tout programme télé, puis cette nouvelle interdiction, comment dire, le doute raisonnable est permis. Oui. Alors face à eux, les Afghanes résistent. Elles étaient quelques dizaines ce matin encore dans les rues de Kaboul. Écoutez. Leur slogan, liberté, travail et nourriture et une détermination qui ne faiblit pas depuis le mois d'août. Alors oui, Corinne, quelques dizaines, c'est peu, mais c'est immense dans le contexte. Comme chaque fois, elles ont été battues et dispersées par les talibans. Comme chaque fois, elles se sont jurées de revenir.
Et si maintenant, on vous dit New York, police judiciaire ?
Eh bien, vous serez très nombreux à avoir ceci en tête. Dans le système pénal américain, le ministère public est représenté par deux groupes distincts, mais d'égale importance, la police qui enquête sur les crimes et le procureur qui poursuit les criminels. Je le fais bien.
Hein. Ah, vous le faites
voici
hyper bien.
L'histoire. C'est sur cette phrase mythique que s'est ouverte pendant 20 ans la série culte Law and Order, New York Police Judiciaire pour la version française. Série qui a imprimé et pour longtemps dans la tête de millions de téléspectateurs à travers le monde ce qu'il fallait d'hémoglobine, de muscles et de testostérone. On savait ce qu'était un flic new-yorkais. Et d'abord qu'il était un. Sauf que maintenant, il sera une. Oui, c'est une mini-révolution qui se prépare dans le milieu ultra-masculin de la police new-yorkaise, et de la police en général, il faut bien le dire. Ce samedi, Kishan Sewell en prendra très officiellement les commandes. En 176 ans, pardon, elle sera la première femme et la troisième personne noire à ce poste. Sous ses ordres, 35 000 policiers quadrillant la plus grande ville des États-Unis, ville où la criminalité a flambé avec la pandémie de Covid et où la défiance envers la police, régulièrement accusée de racisme, racisme, de corruption, de violence ces derniers temps a également explosé. Bref, autant dire qu'il y a du boulot. La tâche qui attend Sewell dépasse au doigt mouillé, on va dire, la somme de tous les épisodes de toutes les saisons de Law and Order multipliés par deux, hein, croyez-moi. Mais justement, c'est elle qu'il fallait à ce poste, assure celui qui l'a nommé, Eric Adams, qui sera, lui, le premier maire noir de la ville. Il prendra lui aussi ses fonctions ce samedi. Comme quoi, ça bouge, comme quoi les temps changent. Corinne, ah non, non, pardon, pas partout.
Eh oui, pas en Corée du Sud, visiblement.
Où la dernière pub du géant laitier Seoul Milk a déclenché le tollé sur les réseaux sociaux. On y voit un homme en bob, kaki et gilet multipoche marcher à pas de loup dans la forêt humide. À la main, une caméra. Bouche ouverte, yeux écarquillés, tentant de faire le moins de bruit possible, il filme. Et il filme quoi ? Ici, une femme avalant tout doucement une goutte de rosée qui, oups, déborde sur ses lèvres. Là, une autre qui tend son visage au soleil et qui bientôt fera, je suppose, l'amour avec un brin d'herbe. Mais en attendant, position du chien tête en bas, posture du cobra, elles sont une dizaine à faire du yoga dans la prairie. Je suis sûre que vous faites ça tous les jours, Corinne.
Là, je suis extrêmement sûre.
Filme toujours. Et ouais, ça fait quand même un petit peu vieux pervers, là, mais là n'est pas la question. Hein. La question, c'est que, aïe, il marche sur une brindille et que ça fait crac et que ça fait... Et ouais, toutes ces sublimes créatures ont été transformées en vaches. Et donc oui, à un moment donné, quelqu'un dans cette agence de pub s'est dit que pour vendre du lait, il fallait transformer les femmes en vaches. Riche idée, les petits génies. La toile s'est enflammée, les accusations de sexisme ont plu. Seoul Milk a dû retirer sa campagne et présenter ses excuses. Bref, c'est ce qu'on appelle avoir un sens aigu de l'époque.
Merci Julia Foyce dans Un jour dans le monde. À très bientôt. Et c'est l'heure du monde d'après avec Cyril Sauvageau ce soir.
Corinne Audouin, le 18-20.
Le monde d'après, vous nous emmenez en Pologne, Cyril, avec une victoire symbolique pour la liberté de la presse. Le président polonais, Duda, c'est comme ça qu'on dit ?
C'est ça.
Vient d'opposer son veto à une loi très controversée sur les médias.
Oui, la semaine dernière, encore plusieurs milliers de Polonais manifestaient sous les fenêtres du palais présidentiel à Varsovie pour réclamer l'intervention d'Andrzej Duda. En Pologne, le président n'a qu'un pouvoir institutionnel limité, mais il peut mettre son veto à une loi. La loi en question a fait couler beaucoup d'encre. Voulue par le PiS, le parti ultra-conservateur au pouvoir, elle visait officiellement à protéger les médias polonais des ingérences étrangères. Mais l'opposition y a surtout vu un moyen de museler la seule chaîne de télé encore critique vis-à-vis du pouvoir, la chaîne TVN24, détenue par un groupe américain, Discovery. Face aux manifestants et surtout face à la pression de Washington qui menaçait Varsovie d'un sérieux coup de froid diplomatique, le président Duda a donc accepté de mettre son veto. Une victoire symbolique pour l'opposition et un camouflé pour le PiS, ce parti populiste tout puissant en Pologne depuis quelques années.
Mais cette décision, Cyril, ne doit pas faire oublier que la liberté d'expression est en très net recul en Pologne.
Oui, le symbole de cette reprise en main, c'est la télévision publique polonaise qui est devenue ces dernières années un véritable outil de propagande au service du pouvoir. Autre place forte de l'idéologie des conservateurs, la presse régionale, un maillon essentiel puisque l'ancrage électoral du PiS est avant tout dans les campagnes et les petites villes de Pologne. L'an passé, le groupe Polska Press, géant du secteur qui détient une vingtaine de journaux et une ribambelle de sites web, est passé dans le giron du pouvoir après son rachat par un groupe industriel polonais. La mise au pas des journalistes dans le pays est en marche, c'est un fait bien documenté. Selon l'ONG Reporters sans frontières, la Pologne a reculé de 46 places au classement de la liberté de la presse depuis 2015. Elle pointe désormais à la 64e position.
Allez, quand même une petite lueur d'espoir, l'abandon de cette loi sur les médias. Ça redonne un petit peu d'espoir à l'opposition, Cyril.
Oui, c'est ça. L'opposition espère mettre fin à la mainmise du PiS sur le pays lors des prochaines élections qui sont prévues en 2023. Le terrain pourrait finalement s'avérer propice. Car à force de diviser la Pologne, de se nourrir des tensions pour mieux régner, le parti populiste de Jarosław Kaczyński a fini par fédérer l'opposition contre lui. Le fait marquant de ces derniers mois, c'est le retour dans l'arène politique de Donald Tusk, l'ancien Premier ministre qui a présidé le Conseil européen de 2014 à 2019. Il a repris le costume d'opposant numéro 1 et espère tirer profit de son aura internationale. Mais cet atout est aussi sa faiblesse. Tusk fait régulièrement l'objet de campagnes de dénigrement de la part des médias à la solde du pouvoir qui le caricature comme une marionnette de Bruxelles vendue à l'étranger. On voit bien la bataille médiatique et politique qui s'engage au moment où Varsovie est empêtrée dans un bras de fer inédit avec l'Union européenne sur les questions d'état de droit. L'Europe sera au cœur du débat et on comprend pourquoi Donald Tusk est était au premier rang des manifestations ces dernières semaines pour réclamer le retrait de cette loi sur les médias.
C'était le monde d'après. Merci Cyril Sauvageau. Allez, on reste ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, le journal de Xavier Demagny, juste après le téléphone sonne pour tout comprendre à cette expression qu'on entend tout le temps, la présomption d'innocence. C'est quoi au juste? À tout de suite.